Cinéma Scala, juste avant l'avant-première du film Loving I. Smith, avec sa réalisatrice Eva Vitia, Vigatz, Willkommen in Genf, und schönen Dank für den Interview. Mon Suisse Ortuch, il est très mauvais. On va parler en français, peut-être un peu en anglais.
Mon français est aussi mauvais comme ça.
Meilleur que mon suisse allemand. Bonjour Eva Vitija.
Bonjour.
Donc on va parler de ce documentaire qui tombait à pic parce que c'était le 100e anniversaire de la naissance de Patricia Smith, qui est un peu passé inaperçu parce qu'il y avait la pandémie. Et donc votre film, il a clôturé cette année d'anniversaire magnifiquement parce que vous étiez nominé aux journées cinématographiques de Soleure et vous avez fait l'ouverture. Comment vous avez vécu ce moment ?
C'était un moment très, très, très spécial parce que c'était même le 101e anniversaire de Patricia Smith parce qu'on a raté le 100e anniversaire. Mais c'était vraiment le jour de l'anniversaire et c'était très spécial avec cette grande foule en pleine pandémie qui était une salle pleine et c'était vraiment un moment formidable pour nous.
Alors, vous livrez des facettes méconnues de Patricia Smith, parce qu'on retient d'elle qu'elle était misanthrope, raciste, antisémite, et même un peu solitaire, justement parce qu'elle n'aimait pas l'humanité. Et là, vous montrez une autre facette grâce à ses carnets qu'elle a écrits depuis ses 18 ans jusqu'à la fin de sa vie. Et est-ce que vous aviez cette image, justement, d'une femme qui peut être très amoureuse, qui peut être coquette? Vous aviez l'image que tout le monde a de Patricia Smith?
Quand j'ai commencé, j'avais un peu l'image que tout le monde a de cette romancière très très sombre qui vit seule dans le Tessin, dans une maison un peu bunker et tout ça. Et quand j'ai commencé à lire ces journaux intimes à Berne, dans l'archive de littérature, j'étais vraiment très très étonnée parce que c'était une personne complètement différente que j'ai découvert. Ouais, c'était une écrivaine très jeune. J'ai commencé chronologiquement les écrits intimes et j'ai découvert cette écrivaine très très jeune, enthousiaste aussi. Est beaucoup amoureuse des femmes quelquefois, et très sympa aussi, une personne qui m'a touchée très beaucoup. Et je me demandais comment c'est possible que quelqu'un peut changer dans sa vie tellement, peut-être changer ou avoir une image tellement différente de ce qu'elle est. Et ça me motivait pour faire ce film-là.
Et justement, est-ce que vous aviez une grande connaissance de l'œuvre de Patricia Smith, ou bien une connaissance comme la plupart des cinéphiles qui ont vu Mr. Ripley au cinéma ou qui ont vu Carole? Est-ce que vous connaissiez beaucoup son œuvre avant de commencer?
Je connaissais assez des romans, mais certainement je connaissais tous les films. Mais je n'étais pas vraiment consciente que c'était les films qui écrit des livres de Patricia Smith. Comme beaucoup de gens, ils ne savent plus que c'est cette écrivaine-là. Et quand j'ai commencé avec ce film-là, avant tout, j'ai lu ses écrits pas publiés encore, parce que c'était ça qui m'intéressait le plus.
Ces journaux intimes, ces carnets.
Ces carnets, ouais, ces journaux intimes, ces lettres aussi. Elle a écrit beaucoup, beaucoup de lettres aussi. Et ça m'intéressait plus parce que ça me donnait plus de traces de son vie privée qui sont dans son écriture après, comme on dit ça.
Non, wunderschön, meine Süßer tut sich nicht so gut wie ihr Französisch. Et puis, vous avez voulu nous montrer, on savait que c'était une grande croqueuse de femmes, et qu'en même temps, elle n'a jamais assumé son homosexualité, parce que c'était une époque difficile pour l'assumer, même si à cette époque, il y avait un côté tourbillon au niveau des clubs, des bars qui étaient destinés aux homosexuels, mais en même temps, elle venait d'une famille très conservatrice. Donc elle avait toujours cette difficulté à assumer sa vraie personne.
Oui, c'était très difficile pour elle, même si elle était très, très... elle participait beaucoup au clubbing de ces années 50 et 60.
À New York.
À New York, oui, aussi en France. Il y avait beaucoup de clubs, peut-être plus que maintenant, mais c'était tout caché, bien sûr. Elle savait très bien, même si elle avait d'écrire Carol, était très libératrice pour elle, mais elle savait si s'il va publier dans son, sur son nom, ça lui peut-être ruiner sa carrière.
Et son éditeur lui a conseillé de publier sous un nom d'emprunt, un nom de plume, pour éviter justement qu'elle soit stigmatisée.
Ouais, c'est ça. Et aussi chez sa famille, c'était un tabou complet de parler de son sexualité.
Et puis elle avait déjà une relation très difficile avec sa mère, même s'il y avait quand même de l'amour, et elle cherchait en vain à être reconnue par cette mère, à être admirée. Elle a peiné à obtenir cette reconnaissance.
Ouais, je pense qu'elle admirait beaucoup à sa mère, qu'elle était une artiste, lui-même artiste d'illustration, telle chose. Et elle ne pouvait pas jamais get the love of her mother.
Obtenir son amour,
ouais.
Vous avez montré une facette, justement, on sait qu'elle avait beaucoup d'aventures sentimentales et sexuelles. Elle était une Don Juan, si on peut dire ça comme ça. Et vous avez choisi trois de ses anciennes amantes. Comment, parce qu'il y en avait tellement, comment vous avez effectué votre choix? Et si vous pouvez parler de ces trois femmes.
Ouais.
Une américaine, une allemande.
La première que j'ai trouvée, c'est Mary Jane Meeker, une écrivaine américaine. Et je l'ai trouvée parce qu'elle a écrit un livre sur son relation avec Patricia Smith avant. Et ce livre me donnait beaucoup d'informations et aussi une perspective que je pourrais trouver dans cette perspective-là, parce qu'elle avait une image de Patricia Smith comme femme jeune, comme femme romantique aussi, parce que Son histoire d'amour commençait très, très romantique et tout ça. Et puis, je lui ai contactée. Elle était très ouverte au premier moment. Mais après, elle a dit, je ne veux pas participer dans un film parce que j'ai déjà écrit un livre. Il ne faut pas faire autre chose. J'ai tout écrit. Tout ce que je sais, je l'ai déjà écrit. Et il durait 2 ans. À lui convaincre de participer dans ce film-là. Et c'était vraiment, vraiment le dernier moment, parce qu'après, elle tombait un peu très, très vite dans une sénilité.
Elle perdait la mémoire.
Ouais, elle ne sait plus beaucoup des choses. Alors c'était vraiment le dernier moment de pouvoir lui contacter. Avec les autres deux protagonistes, ils sont un peu plus jeunes, parce qu'ils étaient 30 ans plus jeunes que Patricia Smith. C'était notre...
génération.
Non, c'était notre clique.
Votre chance.
C'était notre chance qu'elle avait des amants un peu plus jeunes qu'elle-même.
Donc vous pouvez nous parler de cette amante française à Paris et de l'amante à Berlin.
Oui, Monique Puffet était une jeune traductrice anglais-français qui lui connaissait dans les années 80, 80.
Wunderschön.
C'était un peu une histoire difficile parce qu'elle avait rencontré une autre femme à peu près le même moment. Et puis, Patricia Smith lui touchait quand même beaucoup. Elle vivait des bons moments ensemble en France. Et elle avait une amitié après, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Elle était très ouverte à faire ce film-là parce qu'elle voulait vraiment donner l'image de Patricia Asmus qu'elle a connue. Et ce n'était pas l'image qu'elle trouvait dans tous les médias. Et puis, elle était ouverte pour ce bien sûr, elle voulait me rencontrer si je suis reliable.
Joignable.
Ouais. Chose comme ça. Et chez Tabea Blumenschein, c'est un peu différent. C'est la protagoniste à Berlin. C'était une actrice de son temps, une artiste aussi, qui faisait des films soi-même. Et elle n'était pas vraiment amoureuse de Patricia Asmus, mais Patricia Asmus était très, très amoureuse de Tabea Blumenschein. elle avait une amitié et je pensais qu'elle est très, très intéressante parce qu'elle avait dans sa vie soi-même, elle avait ce sujet de avoir des masques, avoir des costumes et aussi se masquer comme un homme et toutes ces questions-là qui étaient aussi importantes pour Patricia Asmus dans son écriture.
Les questions de genre aussi.
Les questions de genre aussi, ouais. Ouais.
Et grâce à ces témoignages, en particulier les deux amantes les plus jeunes, on comprend que la société a quand même beaucoup évolué. Même s'il y avait ces clubs et ces bars qui étaient peut-être plus fréquents qu'aujourd'hui, mm-hmm. destinés aux homosexuels, ouais. on voit qu'il y avait un regard qui stigmatisait. Il fallait quand même se cacher. On menait une double vie.
Oui, c'était clair qu'on ne pouvait pas le vivre en liberté ouvertement. C'était pas possible dans ce temps-là. Certainement. C'est jusqu'aujourd'hui, peut-être pour beaucoup de gens, ce n'est pas possible. C'est un peu plus facile maintenant.
En Europe, aux États-Unis, mais pas dans tous les pays.
Oui, donc, même en Italie, c'est, pour exemple, une grande difficulté. C'est pas loin. Hein. Ou classes migratoires, il y a beaucoup de gens qui ont toujours ce problème-là.
Qui fuient leur pays à cause de l'homosexualité aussi.
Ouais, ça existe toujours. Ouais. Et pour Patricia Asmus, je pense qu'elle avait une sorte de liberté de vivre assez libérée cette vie, mais bien sûr que ce n'était pas jamais public, c'était toujours caché, même de ses amis ne savaient pas tous qu'elle était homosexuelle. Elle avait une amie, par exemple, de l'école qui était assez proche d'elle. Elle ne savait jusqu'à la fin pas qu'elle était homosexuelle parce qu'elle avait aussi cette blindness,
cécité, cet aveuglement.
Oui, elle ne voulait pas savoir parce que c'était aussi ses éditeurs jusqu'à la fin. Elle n'était pas vraiment
ouvertement
informée ou quelque chose. Je pense que beaucoup de gens savaient, mais pas tous les gens étaient sensibles pour ces choses-là.
Ouais. Et dans le film, vous avez choisi d'insérer des films qui sont les adaptations de ces œuvres, comme Carol ou Mr. Ripley au cinéma, avec Matt Damon ou avec Kate Blanchett. Et en même temps, vous insérez aussi des extraits d'interviews.
Ouais.
Où elle parle d'ailleurs parfaitement français. Comment vous avez choisi cette alternance?
Je pense que c'est super chez Patricia Asmus. Une normale écrivaine, il faut toujours travailler seulement avec les textes. Et chez elle, il y a beaucoup de nouvelles qui sont adaptées pour le cinéma. Et ça, c'était vraiment une chose formidable pour nous, pour faire le film. Parce qu'il ne faut pas parler de ses œuvres seulement en texte ou seulement en voix off ou quelque chose. Mais on peut aussi les montrer comme film. Et aussi montrer les thèmes privés, les thèmes de sa vie, de sa propre vie, dans les films, vraiment en images. Et ça, c'était une super, comment on dit ça, une faute à l'avantage.
Un avantage.
Un avantage pour nous.
Et justement, quand on voit Mystery Play, on sait que même si rien n'est ouvertement dit, on pense bien que c'est justement pour parler de l'homosexualité.
Oui, elle avait toujours ces couples des hommes dans ses livres qui avaient une relation très difficile, très...
Ambiguë
et tout ça. L'homosexualité était toujours présente, mais pas pour tous les lecteurs. Si un lecteur n'avait pas cette sensibilité, il ne comprenait pas. Mais tous les homosexuels savaient toujours qu'il y a ces thèmes dans ces livres. Et aussi pour nous, c'était très, très important, très, très intéressant quand on a voyé le Talented Mr. Ripley dans le ciné. Moi-même, je n'étais pas vraiment totalement claire qu'il y a tant de thèmes homosexuels dans ce film-là aussi. Et j'ai compris aussi... seulement plus tard.
Par contre, pour Carole, c'était clair, puisqu'elle a signé sous un nom de plume, justement pour pas qu'on sache que c'était elle. Mm-hmm. Et elle a eu un succès incroyable à l'époque.
Ouais, c'était toujours un grand succès avec ce livre. Et ça souligne encore que elle avait vraiment beaucoup, beaucoup de temps à dire que c'est écrit d'elle. Elle-même, même si c'était un tel succès. qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous pourrez...
Je disais qu'à l'époque où Carole est publiée, elle remporte un succès incroyable, bien que ça traite ouvertement de l'homosexualité.
Oui, c'est aussi... elle était si un tel grand succès parce que c'était aussi la première fois, je pense, dans les nouvelles en Amérique qu'il y avait une histoire qui ne finissait pas mal. Mm-hmm. C'était vraiment pour beaucoup, beaucoup de femmes une grande révélation. Mm-hmm. Elle avait aussi beaucoup des lecteurs, lectrices, lui écrivait des lettres parce que pour eux, c'était vraiment une telle grande chose de lire un roman qui ne finissait pas mal avec deux femmes qui tombent amoureuses.
Oui, justement, elle était habituée à beaucoup de noirceur, beaucoup de... C'est assez dramatique en général. Mm-hmm. Et en même temps, elle avait aussi un caractère. On voit aussi ses dernières interventions en France, puis après au Tessin. Elle avait un caractère très solitaire et puis un peu dépressif quand même.
Oui, je pense qu'il y a une certaine amérité.
Amertume.
Amertume, une certaine amertume dans sa vie, parce qu'elle était quand même découragée de quelque chose. Elle était, par exemple, elle n'était jamais tellement respectée dans son pays d'origine. En Amérique, par exemple, elle devait toujours changer les éditeurs parce qu'elle n'avait jamais un éditeur fixe. Elle n'était pas si
reconnue
comme en Europe ou en France, par exemple. Et aussi dans le domaine d'amour, je pense qu'elle a espéré plus une vie plus heureuse. Peut-être.
Eva Wittiger, en même temps, vous disiez que ces carnets ont soutenu votre travail et vous ont apporté un éclairage nouveau sur son œuvre. Mm-hmm. En même temps, est-ce que c'est les carnets que vous allez retenir ou après avoir travaillé de si près pendant plusieurs mois avec Patricia Smith, il y a un autre ouvrage qui reste ancré en vous? Un ouvrage qui reste important. Est-ce que ce sont les carnets ou est-ce qu'il y a un autre livre qui vous paraît fondamental pour vous?
Pour moi-même, mon livre préféré de Patricia Smith, c'est peut-être Ce mal étrange, parce qu'il parle beaucoup de l'imagination. Dans ce cas-là, c'est l'imagination d'une amoureuse qui est amoureuse en vain, parce que cette relation n'existe pas du tout en réalité. Et c'est aussi parler sur l'écriture, je pense. L'écriture a caractère aussi, il travaille aussi avec l'imagination tout le temps. Et ça m'intéressait comme autrice aussi. Parce que ce livre vraiment parle sur l'imagination lui-même.
Est-ce que, forcément, vous avez côtoyé Patricia Smith différemment? Ça a changé votre appréciation de la personne et de son œuvre?
Oui, ça a vraiment changé mon appréciation. Je savais qu'elle était une autrice géniale, mais ce que vraiment touché à moi, c'est qu'elle vraiment a tellement utilisé ses propres thèmes et ses propres expériences tellement fort, comment on dit ça?
Oui, intensément.
Intensément pour sa littérature, ça je ne savais pas, et je pense qu'elle a vraiment beaucoup
in English
c'est un peu le héros classique qui opfert sein Leben opfert für die größere Sache.
Elle sacrifie sa vie.
Elle a un peu aussi dans quelques sens sacrifier sa propre vie pour pouvoir écrire. Et ça me touchait beaucoup que quelqu'un est si dédié à son littérature. Ouais. Mm-hmm.
Pour accompagner ces images et tous ces témoignages, vous avez choisi une musique, on peut en parler, quelle musique?
C'est la musique de Noël Achoté, qui est un musicien français. Et il était accompagné par deux guitaristes géniales américaines, Bill Frisell et Mary Halverson. Ils ont aussi fait une CD de cette musique-là, qui a plus de musique que dans le film. Mm-hmm. C'était vraiment très très beau de travailler avec lui.
Ce soir, vous êtes au Cinéma Scala à Genève pour l'avant-première et pour rencontrer le public. Quelle est votre relation avec Genève et avec la Suisse romande?
J'aime beaucoup Genève. quand je ne pouvais pas écrire bien, je prenais toujours le train pour aller à Genève, écrire en train, faire une petite promenade, manger un bien poisson ou quelque chose, et retourner à Zurich
en écrivant.
Ouais.
On voit comment vous travaillez dans le train, c'est une source d'inspiration avec les paysages. Et on accompagne Loving Alchemist, qui sort maintenant sur les écrans après avoir été présenté aux Journées cinématographiques de Soleure. Mais vous écrivez aussi des scénarios. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler?
Oui, j'ai trois idées que je...
Poursuivez.
Je poursuive. Et je ne sais pas encore c'est lequel que je me dédie pour des années et des années. Mais j'ai des idées en commencement, ouais, en nucléus.
Alors on vous souhaite plein d'inspiration. Viel Erfolg für heute Nacht und danke vielmals für deine Interview.
Merci beaucoup à vous.
Wiedersehen.
Wiedersehen.
Merci Eva. Merci.